Jusqu'à quel âge est-il souhaitable de travailler? Alors permettez-moi une opinion personnelle et vécue, le plus tard possible, si l'on a eu le privilège d'exercer ce que vous me permettrez d'appeler un métier passion. Mais si c'est un métier qu'on n'a pas choisi, un métier qu'on n'aime pas, un métier répétitif, fatigant, voire pénible, oh ben là, il faut s'offrir le plus rapidement possible une seconde vie. Par exemple, si on est homme politique, bon, c'est un métier de chien, hein. Et surtout si l'on arrive à être chef de l'État, parce que là, c'est terrible. Même si on a eu d'excellents résultats, on les renvoyait au bout de 10 ans, et de surcroît, poursuivi ensuite par la justice, hein. Alors, surtout, distinguez bien l'âge du départ de l'âge de la retraite, à taux plein. Parce qu'on maintient l'âge de la retraite à 62 ans, c'est une promesse sur laquelle on ne reviendra pas avant longtemps, mais en revanche, très rapidement, on augmentera la durée des cotisations, ce qui revient au même et qui finira, mais très rapidement, par aboutir à ce qu'on prenne sa retraite à 67 ans. Je crois que c'était une bonne idée de remplacer le système des trimestres par un système à points. C'est le même système d'ailleurs que celui dont on bénéficie dans les fêtes foraines. Plus on a de points, plus on a le droit d'emporter 2 kilos de sucre. Bon, alors simplement, il faudrait que ce soit à condition de pouvoir noter. Ça serait en quelque sorte l'équivalent du stand de tir de la fête à Neuneu, de pouvoir noter son entreprise, ceux qui la dirigent et même ses collègues. On noterait les petits chefs, on noterait les autres, on noterait l'inhumain responsable des ressources humaines, on noterait le chef du personnel qui a tendance à confondre embauche et débauche. On noterait la malbouffe de la cantine. On noterait la salle de sieste insuffisamment insonorisée. Et tout ça constituerait des points qui seraient à l'actif de celui qui a fait les notations. Et puis, ce qu'on a découvert là, peut-être qu'on en avait un peu parlé, mais sans insister, c'était la différence entre les fonctionnaires actifs et les fonctionnaires qui ne le sont pas. Les fonctionnaires actifs vont partir assez rapidement en retraite. C'est dommage d'ailleurs parce qu'eux, ils manqueront. Et les fonctionnaires inactifs, ils auront le droit de dormir plus longtemps au bureau. Alors, je ne sais pas ça si c'est la meilleure solution. Alors, pendant ce temps-là, bien sûr, on procède à l'adieu aux régimes spéciaux. Il y en avait 42 différents, il n'y en aurait plus qu'un unique. Et je voudrais signaler celui dont profite, mais ce n'est peut-être pas le mot, le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, qui à 72 ans n'a jamais encore autant travaillé. C'est quand même un bon exemple. Alors j'espère qu'il aura vraiment, lui, sa retraite à taux plus que plein. On pourrait en profiter aussi pour améliorer la cérémonie de départ dite du vin d'honneur. Je suggère, si les finances de l'entreprise le permettent, un Bordeaux un peu plus vieux, davantage de petits fours et peut-être aussi une vraie gentillesse. Bon, par exemple, bon, ne croyez pas celui qui fait la locution traditionnelle et qui commence en disant que celui qui part à la retraite est irremplaçable, puisque généralement, c'est lui qui va le remplacer. Et puis, bon, souvenez-vous, avant de vous tordre les bras, qu'il y a quand même eu des améliorations. Bon, pas suffisante, bien sûr, mais sous Mitterrand, par exemple, on prenait sa retraite à 60 ans après 30 ans de cotisation. Et on avait 50% de son salaire. Vous me direz qu'aujourd'hui, parfois, on n'a pas autant. Mais avant, et c'est ça peut-être la principale différence, avant, ceux qui travaillaient pour les anciens qui ne travaillent plus. Et aujourd'hui, ceux qui travaillent, enfin demain ou après-demain, on ne sait jamais exactement la date, vont épargner pour leur propre compte, ce qui est différent. Alors, Il faut voir le résultat. Hein. Parce que les 16 millions de retraités que la France compte actuellement, et qui ne se reproduisent plus, bien sûr, vont quand même augmenter. Et là, il va falloir refaire les comptes. Parce qu'il y a quelques années, oh ben, c'était au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, les économistes avaient prévu qu'il y aurait un équilibre du régime des retraites en 2022. Et aujourd'hui, ils ont refait les calculs. Non ? C'est pas 2022, on s'était un peu trompé. L'équilibre, ce sera pour 2040. Excusez du peu, hein.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Où en sont les gilets jaunes ? Si vous croyez aux chiffres, je peux vous en citer quelques-uns, mais ils n'expliquent pas tout. Bon, ils étaient 280 000 au moment du lancement du mouvement, 10 fois moins dernièrement. Mais bon, il faut compter aussi avec des sympathisants qui sont beaucoup plus nombreux. De toute façon, les chiffres du ministère de l'Intérieur et ceux d'un petit service des Gilets jaunes, c'est d'ailleurs le seul connu, parce qu'ils n'ont pas de siège social, ils n'ont pas de service de presse, ils n'ont pas de leader. Bon, ils ont quelques étoiles filantes, hein, comme par exemple l'infortuné Rodriguez qui a perdu un œil dans une manifestation, la dame Geneviève Le Guay qui a été molestée à 73 ans parce qu'elle s'était trouvée dans un assaut policier qu'elle n'avait pas vu venir. Et puis alors, il y a un départ, plutôt une fuite. Le fameux Éric Drouet a rendu son tablier. Il y a une chose qui m'a toujours frappé dans le cas d'Éric Drouet, c'est que c'était l'homonyme presque parfait du Drouet qui, à l'aube de la Révolution française, avait reconnu le roi Louis XVI, qui était en train de déjeuner à Varennes après sa fuite de Paris. Donc, vous voyez, un élément déclencheur de révolution. Alors, il a beaucoup payé de sa personne, un petit peu de sa cassette, puisqu'il avait été condamné à 2000 euros d'amende. Bon, ça n'est pas rien. Mais il en a eu assez. Il a fait une espèce de manifeste d'adieu où il dit qu'il ne peut plus supporter des injures qui parfois retombent sur sa famille, qu'il y a des insultes, des vexations, un mépris, et que véritablement ça lui a gâché la vie. Bref, qu'il est fatigué et qu'il ne supporte plus le rôle qui s'était donné au départ et qu'on lui avait assigné ensuite. Aujourd'hui, donc, il n'y a aucun chef de file qui demande à être reçu, par exemple, par Emmanuel Macron, lequel, d'ailleurs, ne cite pratiquement jamais les Gilets jaunes en laissant ça aux autres membres du gouvernement. En revanche, et je pèse mes mots, je crois être en mesure de vous révéler l'identité du créateur involontaire des Gilets jaunes. Oui. Et ça, je pense que mes confrères n'en ont pas parlé. Il s'agit de quelqu'un qui a eu des grandes responsabilités, qui a pris une décision importante, mais sur le moment qu'on n'a pas apprécié complètement, en septembre 2016, car il a créé l'obligation pour les automobilistes et leurs passagers de porter un gilet jaune, ou en tout cas de l'avoir sous la main dans leur véhicule quand ils s'arrêtent sur l'autoroute et qu'ils doivent traverser la chaussée ou disposer autour du véhicule en panne des signes qui d'ailleurs sont complètement dépassés. C'est un potentiel énorme d'adhérents, puisque les passagers et les automobilistes, ça représente 60 millions d'adhérents potentiels. Mais le nom, vous me direz, ben j'y viens. Le nom, c'est François Hollande, avec la complicité inattendue du couturier Karl Lagerfeld. Voilà. Alors ce jour-là, il a fait à son successeur le pire cadeau qu'on pouvait imaginer, puisque ce sont de ces gilets jaunes, des signes distinctifs, qui ne coûtent que 5 euros au minimum, et qui constituent une espèce de cotisation non renouvelable que la Fronde, et le mot est parfois faible, certains samedis, a pu se développer. Alors, pour les Européennes, bon, ça se présente pas très bien. Difficulté de constituer une liste. Des sondages qui disent que pour celles qui arrivent à se constituer, il faut compter 5% pour bénéficier d'un député ensuite au Parlement européen, mais les sondages n'accordent aux gilets jaunes que 3% au maximum. En plus, pour faire une campagne pour les Européennes, il faut disposer d'un trésor de guerre d'au moins 700 000 euros, et ils ne les ont pas. Alors, ils pouvaient faire appel, comme ils l'ont déjà fait, à une cagnotte. C'est interdit. Et il y a quelque chose que je voudrais signaler, parce que d'habitude, vous savez, j'ai l'air d'avoir tout compris. C'est d'ailleurs souvent pas vrai, mais enfin, j'essaie de ruser un peu pour ne pas vous montrer l'étendue de mon ignorance. Eh bien, aujourd'hui, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dernièrement, et ce rejet a fait couler beaucoup d'encre et de salive, le Conseil constitutionnel a retoqué la loi qui permettait l'interdiction administrative des manifestations. Bon, sous prétexte, mais c'est vrai, que le droit de manifester était un droit constitutionnel. Or, qu'est-ce qui se passe depuis ? Eh bien, on n'arrête pas d'interdire, non pas des manifestations, mais les endroits où elles pourraient avoir lieu. Alors, je m'interroge, où est la différence entre l'interdiction de manifester et l'interdiction d'aller sur les Champs-Élysées ou sur une grande place publique? J'attends qu'on m'explique. La justice, dont on vitupère souvent la lenteur, a-t-elle fait un progrès avec la comparution immédiate ? Alors je dis tout de suite qu'il y a de nombreux avocats, et on ne peut pas se passer d'eux quand même, qui sont opposés parce qu'ils disent c'est plus du travail, c'est de l'abattage, on n'a pas le temps de préparer le dossier, on a à peine le temps de prendre contact avec le client. Bref, c'est pas quelque chose de très rassurant. Et vous le savez, pour un justiciable moyen, la justice est quelque chose qui souvent fait peur. Alors, il n'y a pas de quoi rassurer, mais quand même, ça convient aux délits plus simples, plus clairs, ça convient à ceux qui ont fait comparaître mais qui n'ont pas de casier judiciaire. Alors, sachant quand même qu'il y a des catégories sociales qui sont exclues de cette possibilité, il n'est pas question de faire comparaître immédiatement des journalistes ou des politiciens. D'ailleurs, bon, il n'y a pas beaucoup d'exemples. En revanche, ça peut se passer très vite. Bon, il y a un déroulement qui peut avoir lieu le jour même, avec une présentation au procureur qui apprécie, selon la garde à vue, l'éventualité d'une comparution et qui parfois y renonce. Alors, si ce n'est pas dans la journée, le justiciable passe la nuit au dépôt. Et il paraît que c'est pas du tout agréable, qu'il y a des rats, que... Enfin bon, je vous fais pas le tableau parce que ça vous ferait un peu peur. Alors ensuite, il y a trois possibilités. Ou bien il y a une assignation à résidence. Alors là, c'est particulièrement cruel pour les gens qui n'ont pas de logis. Il y a ensuite le contrôle judiciaire et puis la détention préventive, mais à condition qu'elle ne dépasse pas 3 jours ouvrables. Hein. Et puis alors, une fois que tout est fini, ben on fait le bilan. on fait le bilan et on constate qu'il n'y a pas eu de temps perdu. Il n'y a pas eu de temps perdu parce que tout a été mené tambour battant et que, notamment, les audiences n'ont pas duré plus de 29 minutes. Alors, quand on pense à certains procès célèbres qui sont en référé actuellement, qui durent depuis 20 ans et qui ont nécessité des milliers d'heures de prétoire avant des centaines d'heures de délibération, bon, bah, on se dit que là, il y a quand même un progrès. Alors, il y a un progrès, sauf que quand on regarde le résultat de ces comparutions immédiates, on s'aperçoit qu'il y a 70% de peines de prison ferme qui ont été prononcées, c'est-à-dire deux fois plus que la normale. Et ce qui ne va pas arranger la surpopulation carcérale. Hein.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
L'inflation est-elle l'ennemi du pouvoir d'achat ? La réponse est affirmative, oui. Elle rogne sur le pouvoir d'achat. Mais elle autorise un petit moment de la vie d'entreprise qui était bien agréable. C'est-à-dire, c'est la demande de salaire qui a toute chance d'être acceptée. Alors, encore faut-il que les experts de l'INSEE, qui notent chaque mois, c'est fait très sérieusement, les prix de 200 000 articles disent que effectivement la vie a augmenté et qu'il convient que les salaires suivent, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours le cas. Bon, aujourd'hui, quand on se penche sur le passé, on s'aperçoit qu'on a eu à une certaine époque de notre histoire de France, déjà lointaine, mais après les guerres notamment, des inflations qui pouvaient se situer entre 45 et 54%. Bon, c'est énorme. Vous me direz que le Venezuela, aujourd'hui, il en est à un indice d'un million de fois. C'est beaucoup plus. Hein. La bonne inflation, c'est 2%. La bonne inflation permet à l'activité commerciale et industrielle de se maintenir à un niveau acceptable et même parfois mieux. Alors que le symbole d'inflation démente, je crois que c'était après la guerre en Allemagne, il fallait compter plusieurs millions de marques pour acheter un timbre poste. Alors on voyait dans des caricatures de l'époque, on voyait une brave femme qui était à un guichet de la poste avec une valise dont elle extirpait péniblement des liasses de billets et à côté elle avait un tout petit sac dans lequel elle rangeait son timbre poste. Alors aujourd'hui, on a le souvenir d'inflations qui ont été très importantes, notamment après la guerre en 1945, lorsque l'inflation en France se situait entre 44 et 55%, et puis les inflations qui ensuite ont baissé, mais qui étaient quand même très importantes. Et à l'époque, je me souviens que les notaires prêtaient de l'argent à un taux très élevé qui avoisinait les 15 ou 16%. Et puis alors, il y a la déflation. Alors la déflation, ça pourrait être le remède à l'inflation. Bah, pas du tout, pas du tout. La déflation, elle compromet l'activité. Les prix n'augmentent plus, mais tout est ralenti. Et donc, il faut souhaiter la bonne inflation, celle qui culmine et se maintient à 2%.
Allô, ici Bouvard sur RTL. Allô, ici Bouvard sur RTL.
Et pour terminer, le point sur les éventuels changements qui pourraient survenir dans l'assiette de votre déjeuner dominical. C'est le moment d'en parler. Est-ce que le bœuf et le porc vont être sérieusement menacés par ce qu'on appelle les viandes exotiques ? Ben, pas d'affolement, hein. Bon, évidemment, on consomme 30% de viande en moins
qu'il y a 10 ans. Mais ça, il faut en accuser les végétariens, les végétaliens, puis tous ceux qui ont trouvé dans leur assiette des choses parfois moins lourdes, plus légères et tout aussi savoureuses sous la forme du règne végétal. Aujourd'hui, une fois par an, c'est surtout festif, en fin d'année, en début d'année, on sacrifie aux viandes exotiques et un peu plus qu'avant. Bon, d'abord, je voudrais signaler qu'on rend dans la catégorie de gibier plus ou moins exotique, ces sangliers qui s'en prennent non pas à nos boucheries, mais à nos TGV et qui provoquent des centaines d'accidents par an. Le sanglier, c'est une viande assez lourde, mais qu'on peut accommoder avec des sauces qu'ils font bien passer. Et il vient avec toutes sortes de viandes vraiment plus exotiques. Hein. Parce que, bon, le kangourou, il faut aller le chercher plus loin. C'est d'ailleurs une viande qui est assez goûteuse, qui est moins grasse et qui n'est pas trop chère. Et puis, c'est amusant quand la maîtresse de maison dit « Et maintenant, voici mon rôti de kangourou. » Ça crée une diversion autour de la table familiale. Il y a aussi le pavé de zèbre. Mais alors, je note que le zèbre est en baisse, comme s'il avait déjà été rayé des contrôles de la viande exotique. Parce que c'est très surveillé, étant donné que ça vient souvent du bout du monde, il y a des inspections nombreuses pour voir que c'est une viande saine, parfois roborative. Alors, je vous recommande quand même le rôti de bison, d'autant qu'il y a une trentaine d'élevages en France et que parfois, dit-on, le bison est futé. Je voudrais vous recommander également le crocodile. Mais attention, hein, le crocodile qui ressemble au poulet. D'ailleurs, on se demande pourquoi manger du crocodile si on a l'impression de manger du poulet. Enfin, c'est une autre paire de manches. Le crocodile, il ne faut manger que la queue du crocodile. Le reste, c'est pas bon. Puis, vous risquez de trouver un doigt d'explorateur. C'est un peu dissuasif. Aujourd'hui, il y a d'autres viandes exotiques qui sont pas chères et dont la principale caractéristique est d'abaisser le niveau des graisses et du cholestérol. Donc, on peut les recommander dans un régime et ça ne peut pas faire de mal à l'organisme. Sauf que la statistique est formelle. À l'heure où je vous parle, la consommation annuelle en viande exotique du Français se situe aux alentours de 300 grammes par an. C'est-à-dire très peu, hein, parce que le bon vieux bœuf et le cher vieux porc, ils se mesurent en dizaines de kilos par tête de consommateur. Voilà, bon appétit.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Ce n'est pas l'expression de la semaine dont je voudrais vous entretenir maintenant, mais c'est plutôt l'expression du quinquennat, puisque le président Macron n'a pas hésité à l'employer au moins 6 fois lors de sa dernière conférence de presse. Alors vous l'avez sûrement remarqué quand il disait, c'était le contraire d'une affirmation superficielle, « Je crois profondément ». Et là, il a pris le relais de François Hollande quand il disait « Je condamne fermement ». Bon, c'est ainsi que le roi avise ses sujets d'une réflexion qu'il a menée jour et nuit pendant des mois, ainsi que de ses convictions profondes et durables. Alors, il y a eu un changement d'adverbe, mais ce n'est pas pour ça qu'il y aura un changement de cap. Non, on continue à aller dans la même direction en dépit de la tempête et de la révolte de certaines parties de l'équipage. À dimanche prochain!